Approchez. Plus près.
À trois, ouvrez les yeux et dites-moi ce que vous voyez.
Un, deux.
Libradio, www.libradio.org. Un regard beau comme un prolétarien, sur un monde turbide comme un bourgeois. Quitte la fange, rejoins la gang. info@libradio.org.
Je m'appelle Diego, j'ai 35 ans et je suis originaire de Genève. En 2018, j'ai eu un burn-out sur plusieurs mois. Au cours de mon arrêt, j'ai eu la chance d'avoir l'appui et l'accompagnement médical, familial, amical et financier nécessaire. Malgré cela, je ressentais un vide et une grande frustration car je ne trouvais pas de lieu à Genève où pouvoir échanger sur mon expérience et mon vécu avec d'autres personnes se trouvant dans la même situation que moi. Durant mon absence, j'ai été surpris de constater que ce mal-être touchait beaucoup de monde. Ceci m'a fait prendre conscience de l'ampleur de ce mal qui ne cesse d'augmenter tout en restant banalisé. Aujourd'hui, je ne veux plus rester les bras croisés et voir d'autres personnes s'isoler dans un épuisement physique et émotionnel. C'est donc tout naturellement que j'ai eu l'envie de créer ce groupe de parole Burnout d'or, qui est ma façon de dire, toi aussi tu as le droit de brûler à l'extérieur. Bonjour Diego, bienvenue à toi.
Bonjour, merci.
Mais avec beaucoup de plaisir, on a beaucoup de plaisir en tout cas de te recevoir et on te reçoit justement parce que tu es le Diego du texte.
Exactement, c'est très émouvant en fait d'écouter quelqu'un lire ce texte parce que la plupart du temps c'est moi qui le lisais, c'est moi qui l'ai fait.
Et oui.
Donc c'est vrai que c'est assez touchant et puis merci en tout cas de me recevoir, c'est une première pour moi dans une radio, donc merci beaucoup.
Mais en tout cas c'est un grand plaisir. Alors écoute, peut-être allons-nous commencer par vraiment le tout début. Qu'est-ce que signifie donc ce mot burn-out ?
Burn-out, actuellement je dirais que ça veut tout et rien dire vis-à-vis des gens, de la société, des collègues. Aujourd'hui, quand on dit qu'on a un burn-out, c'est comme si on disait ben, « je vais aller à la boulangerie, je vais acheter une baguette et deux pains au chocolat ». Donc, c'est tellement devenu banal et puis tabou en même temps qu'on n'a pas vraiment, on n'ose pas vraiment creuser derrière ce mot. Pour moi, le burn-out, c'est une fatigue chronique, un épuisement chronique, des insomnies, un changement de comportement et puis une lassitude dans son travail. Jusqu'au point où on arrive à un point de rupture et de non-retour. Et là, en fait, il y a tout qui explose. Alors derrière le burn-out, il peut y avoir une dépression et d'autres problèmes privés, familiaux, d'autres troubles du comportement. Mais de manière générale, voilà, c'est ça. C'est beaucoup de fatigue, changement de comportement, état de mal-être permanent. Et on ne sait pas vraiment ce qui nous arrive. On pense que c'est notre faute. Mais après, quand on prend un peu plus de recul, on se rend compte que c'est pas que de notre faute.
D'accord. Ouais. Alors oui, on va évidemment revenir sur cette notion de culpabilité hein, qui est, j'imagine, très importante là-dedans. Mais avant cela, j'aurais voulu t'interroger sur, selon toi, le surgissement du burn-out. Est-ce que c'est d'étape en étape et qu'on s'en rend finalement pas complètement compte ou est-ce qu'il y a vraiment un surgissement direct et du jour au lendemain, vraiment, on dit là, il y a quelque chose qui va pas?
Alors ça va d'étape en étape et puis dans notre tête on se dit on continue à aller travailler, à forcer sa bonne humeur, à essayer de rien laisser transparaître, donc on serre vraiment les dents pour aller travailler et puis on repousse jusqu'au dernier moment. Et puis moi dans mon cas j'ai vraiment attendu jusqu'au dernier moment. Pour finir, je suis allé consulter un thérapeute. Et puis on a commencé à faire pas mal de travail intérieur et j'ai fait pas mal d'hypnose aussi. Et c'est lors de cette première, dans mon cas, lors de cette première séance d'hypnose que tout a explosé en fait. Hein. J'ai commencé vraiment j'ai crevé l'abcès, donc j'ai commencé vraiment à tout vider le sac, des cris, des pleurs, beaucoup d'écriture. J'écrivais une dizaine d'heures par jour pendant à peu près un mois et demi, deux mois, avec des phases où il y a eu des phases pendant cette période où j'osais plus sortir parce que je me suis tellement isolé pour me retrouver avec moi-même que j'osais même plus sortir et je pouvais pas voir plus d'une personne à la fois. Et puis après, j'ai eu des phases dépressives. Et forcément, quand tu es dans une période comme ça, bah, y a d'autres choses négatives qui arrivent parce que tu es vraiment dans une période très négative. Et petit à petit, j'ai pu remonter la pente. Mais de manière générale, je dirais que c'est quelque chose qu'on sait qu'on l'a au plus profond de nous, qu'on essaie de refouler le plus longtemps possible, jusqu'à un moment donné où on n'arrive plus à se lever de son lit. Bon, dans mon cas, c'était par rapport à une séance d'hypnose. Mais si ça n'avait pas été suite à cela, je pense que quelques mois après, j'aurais été dans un cas où j'aurais été incapable de me lever un jour pour aller travailler. Ouais.
Ouais. De quelle manière est-ce qu'on détecte ces signes? Parce qu'on l'a dit, la personne qui est elle-même touchée, des fois, elle est un petit peu dans le déni. Est-ce que c'est toi? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est ton entourage, ton premier cercle ouais. d'amis, ton... Je ne sais pas, comment ça...
Entourage familial. Parce que vis-à-vis ouais. du travail, j'essayais de rien laisser transparaître.
Voilà,
au ouais. boulot, ils me disaient, mais toi, burn-out, Diego, c'est impossible.
Ouais.
Je te connais. T'es toujours, t'as toujours la joie, la bonne humeur. C'est pas ton style. Les amis, pareil, on laisse rien transparaître. Puis quand on les voit, généralement, c'est en soirée. Donc on boit 2-3 coups. Donc on oublie qu'on a un burn-out. Et après, c'est la famille. Parce que forcément, c'est là où on se sent le plus à l'aise. Et c'est là aussi où on va plus montrer son vrai visage. Donc effectivement, j'étais distant avec mes proches. Désagréable avec eux. Il y avait vraiment un changement de comportement radical. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Et puis, je remercie ma mère qui... Je ne sais pas s'il va nous écouter. Mais en tout cas, je la remercie. C'est parce que c'est vraiment elle qui m'a dit, écoute là... Il faut que tu fasses le nécessaire, je peux te donner le numéro d'une personne et puis tu vas la contacter. Et en fait, le plus dur, c'est ça, c'est qu'une fois que tu as le numéro, et une fois que tu as le téléphone devant toi, c'est de dire, ok, ben, j'ai peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça qu'il faut travailler. C'est peut-être pas que la faute de la société, mais c'est aussi peut-être de ta faute. Enfin, de ta faute, c'est peut-être le problème peut-être peut venir de toi exactement. Et donc, j'ai décidé de contacter ma thérapeute et c'est là où on a commencé le travail de manière un peu plus approfondie et qu'on a intensifié ça en 2018, début 2018.
Alors, pour nous rassurer, pour rassurer les personnes qui écoutent, peut-on dire que tu es guéri aujourd'hui ?
Ouais, bah, j'ai repris le boulot à plein temps. Mmh. Comme je travaille à l'aéroport, j'ai repris avec des horaires réguliers et puis petit à petit, je vais... augmenter, je dirais, je vais revenir petit à petit dans les horaires irréguliers, donc finir un peu plus tard le soir, commencer un peu plus tôt le matin. Mais je pense que oui, je pense que le plus gros est passé. Maintenant, je suis toujours dans une phase de guérison et je suis dans une phase d'apprentissage. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, de vivre ça maintenant et aussitôt. Et je pense que c'est quand même grâce à ce milieu aéroportuaire que ça s'est déclenché plus vite. Peut-être que dans un autre contexte, ça se serait déclenché à 45, 50 ans. Mais on peut dire que oui, maintenant, au moins, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas et ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien. J'ai envie de recommencer à travailler, peut-être avec moins de responsabilités, plus de plaisir, et puis me consacrer plus justement à ce groupe de parole Burnout Door qui me tient vraiment à cœur. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire derrière ce message que j'essaie de transparaître.
Alors, tout à l'heure, on va effectivement mettre le focus sur ton groupe de parole. Mais avant ça, justement, pour te questionner encore sur ce processus de maladie, parce que tu viens de le dire toi-même et les mots ne sont pas ni anodins ni innocents, tu as dit en phase de guérison. Est-ce à dire que, exactement comme lorsque l'on tombe malade, on ne tombe pas, mais on glisse vers la maladie, là, de la même manière, on glisse vers la sortie, c'est jamais acquis, il faut tout le temps, ça prend du temps, il faut tout le temps être attentif.
Je pense qu'il faut faire attention à soi, à s'écouter. L'avantage, c'est que pendant cette période, j'ai vraiment appris à m'écouter. Et pour ne pas rechuter, il faut vraiment s'écouter à fond, s'accorder des micro-pauses, peut-être dans la journée, une petite balade, un petit peu de course à pied, faire un sport qu'on aime pour essayer de ne pas retomber dans ça. Dès qu'on commence à sentir qu'il y a du stress, qu'on est en train de revenir dans des problèmes de sommeil ou autre, s'accorder de nouveau des moments pour soi, c'est très important. Une escapade à la montagne, une balade en forêt, un peu de sport, quel que soit le sport, ça c'est important. Des micro-pauses, c'est indispensable.
D'accord, je comprends bien. Toi, tu es effectivement très jeune. Selon toi, est-ce que ça peut arriver à tout le monde et en tout temps, le burn-out? Est-ce que ça concerne effectivement dès les jeunes travailleurs, je ne sais pas moi, de 20 ans? Et est-ce que ça concerne les employés ainsi que d'autres personnes? Est-ce que ça concerne un peu tout le monde?
Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on a peut-être plus de facilité à l'accepter quand on a 30 ans et plus que quand on a 20 ans, parce que vis-à-vis de ses amis, on veut montrer qu'on est le plus fort, qu'on a de l'énergie, qu'on est au meilleur de sa forme. Mais je pense que ça peut toucher un adolescent, quelqu'un entre 20 et 30 ans, 30 ans et plus, à tout moment. On pense que, moi je pensais que jamais ça m'arriverait, et puis au final ça arrivait du jour au lendemain. Et le plus important, je pense, c'est vraiment d'en parler, de ne pas laisser la cocotte minute monter jusqu'à qu'elle explose. C'est d'en parler à ses proches, à des amis sur qui on peut compter. Et ça, c'est le plus important, ouais, de ne pas garder pour soi.
Mmh, d'accord. Dis-moi, donc le burn-out, c'est effectivement intimement lié au travail, au rapport que l'on a au travail. Selon toi, ce stress qui arrive au travail et qui, justement, fait qu'on tombe en burn-out, d'où vient-il ? Est-ce que c'est un ensemble de facteurs ? Est-ce que c'est souvent le rapport hiérarchique ? Est-ce que c'est la concurrence entre collègues, ou est-ce que c'est l'aspiration à une carrière ? Qu'est-ce que c'est selon toi ? Est-ce que c'est un peu de tout peut-être ?
Je pense que c'est lié en fait à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on en demande toujours plus, plus performant, plus rapide, plus cultivé, plus de diplômes, et on valorise moins le « nous », le « soi ». Et le problème qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que plus on valorise ses diplômes, ses formations, ce perfectionnement, moins on a tendance à se rapprocher de nous. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un écart entre la connaissance que j'ai sur moi et la connaissance que j'ai de culture générale, de mathématiques, d'économie, de psychologie et autres. Et je pense que c'est ce grand écart qui fait que entre le côté matériel et le côté ce qu'on va appeler spirituel, qui fait que les gens sont un peu perdus. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Moi, je me rends compte qu'en fait, je ne connaissais pas. Je pensais me connaître, mais je ne me connaissais pas suffisamment bien pour savoir ce qui me faisait du bien ou pas du bien. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, la société a un peu tendance à masquer le fait que c'est important de bien se connaître, et plutôt à privilégier le côté élitiste et performance en mettant comme valeur numéro une l'argent. Et je pense que si on peut-être de côté un peu cette valeur numéro 1, on la mettait peut-être dans la valeur numéro 3, 4, et puis on pouvait gérer plus le moi intérieur, l'amour, l'honnêteté et autres. Et après l'argent, je pense qu'on arriverait peut-être à changer quelque chose. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un peu problématique. Il y a trop de pression, et puis nous-mêmes, on ne sait pas vraiment qui on est vraiment.
Tu penses que ça, on peut le changer ?
Je pense que oui. Je pense que ça peut marcher, pas forcément en faisant des grandes manifestations. Je pense pas que en faisant une manifestation pour les droits de ci, les droits de ça ou autre, ça va apporter quelque chose. Je pense que il faut agir dans une petite communauté comme Burn Outdoor. Pour moi, Burn Outdoor, c'est aussi un prétexte et un exemple en fait pour dire il y a un problème, c'est le burn-out. Mais ce n'est pas le seul problème qu'il y a. Il y a des femmes battues, des hommes battus, il y a des femmes qui sortent avec des maris alcooliques, des maris avec des femmes alcooliques, qui elles-mêmes ont passé par des moments difficiles, qui ont en sorti plus grandes et qui pourraient utiliser cette expérience pour d'autres personnes qui sont dans cette situation. Donc je pense qu'on pourrait sortir de cette situation en utilisant des réseaux sociaux comme lien pour se connecter entre eux et se dire « tiens, moi j'ai vécu ça, j'étais homosexuel quand j'étais petit, j'ai beaucoup souffert, j'ai passé par des moments difficiles et aujourd'hui j'ai su en sortir grandi, j'ai su vraiment apporter quelque chose de plus dans ma vie, je me sens totalement épanoui. Qu'est-ce que je peux faire moi ?» pour agir dans ma communauté et pour aider les jeunes. Et je pense que c'est à travers des... Alors ça peut s'appeler Woman Outdoor, Men's Outdoor, tu peux appeler ça comme tu veux. Mais je pense que si on agit par communauté, c'est très important. Et puis la deuxième chose pour que ça change, c'est qu'on privilégie vraiment le fait d'apprendre à se connaître. Je pense surtout dans les métiers de l'éducation, dans le social, dans l'infirmerie, de se dire j'ai fini ma matu, j'ai fini mon bachelor, j'ai fini mon master et j'en ai plein, je connais plein dans mon entourage qui me dit « Écoute, Diego, je viens de finir ça mais je suis complètement paumé. » Et de se dire « Écoute, ce qui serait pas mal, c'est de prendre 6 mois, une année où tu te consacres que à toi. Tu fais de l'hypnose, tu apprends à te connaître, de la thérapie, ci, ça, ça. » Et là, tu vas avoir des idées qui vont être plus claires, qui vont ressortir, faire un bilan de compétences aussi. Après, tout ce qui est en rapport avec bilan de compétences, coaching, développement personne, ça va avoir du sens et ça va après amener un petit plus pour se fixer un objectif bien précis. Mais je pense que, de un, il faut apprendre vraiment à se connaître. C'est très important. D'où viennent nos croyances ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je pense comme ça ? Et comment je me vois plus tard ? Pour après trouver un moteur dans sa vie et pour après plus facilement aider les autres et être plus dans le partage et moins dans ce côté individualiste.
Ok, tout ça est très intéressant. J'ai deux petites questions avant qu'on parle vraiment du groupe de travail en soi, si ça te convient. Ouais. Alors écoute, j'aurais voulu savoir justement, dans tout ce que tu dis là, selon toi, à quel moment et qui pourrait intervenir et prévenir pour que l'on se prémunisse contre justement un futur potentiel burn-out ? Est-ce que c'est plus les entreprises elles-mêmes qui devraient, pourquoi pas, proposer des espaces communs où les gens se rencontrent et se parlent de manière apaisée ? Ou est-ce que c'est lors de formation où on devrait peut-être sensibiliser les gens en leur disant attention, sachez que ça c'est un mal, un des maux du siècle qu'il faut en être prévenu. À quel niveau selon toi est-ce qu'on pourrait agir pour que justement on change les choses au-delà de tout ce que tu viens de dire?
Alors il y a deux façons de faire. Soit tu règles le problème en surface en mettant une structure dans chaque entreprise, qui est aussi une façon de régler en profondeur, mais en mettant dans chaque structure, dans une entreprise, peut-être des psychologues du travail, des médecins du travail qui font de la prévention burn-out, s'associer peut-être avec d'autres entreprises, comme là je suis en train de faire actuellement un groupe de soutien à Morges dans la clinique du travail avec No Burn-out, donc s'associer peut-être avec des groupes comme ça. Je pense que ça c'est très important et c'est indispensable de mettre ça en place. Et puis, il est aussi important d'agir en amont déjà, dès l'école primaire, cycle, collège, école de com et autres, et dire, bah voilà, on prend maintenant, les enfants, on prend 3 minutes par jour, on va travailler sur un mot, on va réfléchir ce mot et on va écrire. Je pense que la meilleure chose vraiment pour anticiper ça et essayer de faire un travail de fond, c'est donner à chaque gamin un cahier, un stylo et qu'ils prennent 5 minutes pour écrire par jour. Un ressenti, une émotion, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont pas capables, en fait, la plupart des gens ne sont pas capables d'exprimer leurs émotions et de mettre des mots à leurs émotions. Et c'est ça le souci, en fait. Donc, tant que les gens ne sont pas capables de faire ça, bah, forcément, ils n'auront pas la capacité de dire bah, « j'ai des symptômes qui ressemblent à des symptômes de burn-out ». Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit je travaille directement avec les entreprises et puis je fais de la prévention à travers la psychologie du travail et autres. Et d'un autre côté, il y a un travail à faire déjà dès l'école primaire, dans l'éducation primaire, cycle et autres. Quel que soit le type d'éducation. Ouais.
Voilà, selon toi, voilà, c'est quelque chose que les racines peuvent se plonger très, très loin, très profond. Tu as à plusieurs reprises énoncé le mot hypnose. Ça, c'est quelque chose que toi a été. C'est une centralité. C'est quelque chose qui a permis de passer le cap.
Ah, clairement. Moi, je recommande à tout le monde. Bien sûr, pas tout le monde va être réceptif à l'hypnose. Beaucoup vont se figer et se dire non, moi j'y crois pas, l'hypnose ça sert à rien. D'autres vont avoir peur tout simplement parce que quand tu vas faire de l'hypnose, tu vas aller chercher ton toi intérieur et aller creuser au plus profond de toi. Ouais. D'autres vont faire l'expérience avec une personne, ça va pas marcher, ils vont dire bon, l'hypnose ça marche pas avec moi, mais au contraire, si ça marche pas avec une personne, essaye avec une autre, essaye de chercher des solutions. Il y a l'hypnose et d'autres moyens qui sont très utiles. Pour moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, c'est-à-dire qu'on allait chercher mon moi profond, mon moi intérieur, mon moi petit en fait. Et donc, si tu veux, après cette hypnose, je me suis réveillé, j'ai pleuré, je me suis dit mais merde, en fait, j'étais dans des fausses croyances pendant beaucoup d'années. Et en fait, ces fausses croyances, ben, ça vient des parents. Mais après, tu dis mais en fait, si ça vient des parents, ça vient des grands-parents. Si ça vient des grands-parents, ça vient des arrière-grands-parents. Donc, ça vient de la société. Voilà, il faut travailler, il faut avoir des bonnes notes, il faut être performant, il faut être ci, ça, ça. Qu'on entend en permanence et qu'on nous rabâche en permanence en disant c'est le chemin que tu dois prendre. Et en fait, plus j'écrivais, plus je me posais des questions, plus je donnais des réponses à mes propres questions que je me posais. Et plus, en fait, je commençais à avoir les idées qui étaient claires et je me disais, mais c'est quoi, on est dans quel monde, tu vois? Donc, pour moi, l'hypnose, c'est vraiment ça. Ça a été une ouverture d'esprit et j'ai fait pas mal de séances d'hypnose. Ça m'a énormément aidé à gérer mes émotions, à mieux me comprendre, à modifier mes croyances et puis à me dire que, après plusieurs séances d'hypnose, tu dis, mais en fait, la propre limite, ton propre potentiel, c'est toi qui le stoppe ou qui décide de l'ouvrir. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que tu es ta propre limite et dans cette société, on te bloque. On t'évite de trop t'épanouir, d'être trop créatif parce que sinon tu vas être pointé du doigt. Et donc c'est un peu le problème. Ouais. Donc pour moi, l'hypnose, c'est une grande valeur ajoutée et je recommande à ceux qui veulent essayer et à ceux qui sont prêts, bien sûr, et qui trouve du sens dans ça. Ouais.
D'accord, donc en tout cas, c'est un des moyens que tu recommandes pour en sortir.
Clairement.
D'accord. Encore une petite question, et puis ensuite on parle du groupe ouais. de travail. As-tu conservé le même travail avant et après? Et si c'est le cas, y a-t-il eu un accompagnement ou, d'une certaine manière, une prise de conscience de ton employeur concernant le burn-out, ton burn-out et le burn-out en général?
Alors, moi, j'ai repris le boulot que j'ai à l'aéroport de Genève. Ça s'est fait bien, ça s'est très bien passé. J'ai été bien accueilli par mes collègues, par mes responsables. J'ai repris à mi-temps pendant 3 mois. Puis là, j'ai repris dernièrement à mon plein temps. Et ça a été bien reçu, bien perçu. Je n'ai pas eu de jugement de mes collègues. Ceux qui voulaient rentrer un peu plus dans l'intimité, ben, ils venaient chercher l'information. Ceux qui ne voulaient pas, ben voilà. Et ouais, franchement, ça s'est bien passé. J'ai eu après le contact avec le service social qui avec qui on a pas mal communiqué, comme échangé, où j'ai mis en place justement ce projet de no burnout pour que ça s'affiche dans les applications et puis dans les écrans de la compagnie pour laquelle je travaille. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a pas mal d'interactions. Ils m'ont payé justement le cours de no burnout que je suis en train de faire à la clinique du travail. Donc le retour s'est très bien passé. Ça, c'est du côté de l'aéroport. Et puis, à côté de ça, je travaille comme prof de tennis dans un petit club à Genève, à Chêne-Bougerie, qui est le club des services industriels. Donc, je salue tout le monde. Et puis, là, je vais reprendre mon activité normalement, mais toujours progressivement. Hein. Pas tout de suite des grosses charges de travail. On y va petit à petit. Si je vois que je peux y aller jusqu'à là, bah, je continue. Si je vois que c'est trop, je diminue. Donc, c'est vraiment, voilà, on essaie de jauger en fonction de mon ressenti physique et émotionnel. Ouais.
L'arrêt a été long.
Et ça a duré de fin mars jusqu'à fin octobre, donc ouais, on va dire 7 mois à peu près. Ouais. Ouais.
Et puis du coup, c'est un psychiatre plutôt qui t'accompagne.
Alors il y a eu, c'est un psychiatre, voilà, c'était un duo entre psychiatre et psychologue. C'était assez intéressant d'avoir les deux justement, ouais. Deux approches. Avec la psychologue, je faisais pas mal d'hypnose. Avec lui, on était plus dans le concret, dans le pragmatique. J'ai beaucoup aimé, ça m'a été très utile. J'ai vu avant cela plusieurs psychiatres et psychologues avant de trouver le bon. C'est important aussi de bien se sentir à l'aise avec le psychiatre, de prendre aussi un thérapeute qui te bouscule un peu, hein, pas celui-là qui va dire oui, amène à tout ce qu'il dit, mm-hmm. qui cautionne toutes tes croyances, parce que là je pense que ça va te bloquer et tu vas pas forcément avancer, mais d'être avec un thérapeute qui va te bousculer un peu, dire, créer un peu le conflit en toi et qui va te réveiller et dire « Ah ouais, mais en fait, c'est vrai que tu as peut-être raison. » Donc,
faut se faire un peu bousculer.
Ouais, et trouver la bonne personne, c'est très important. Ouais.
Est-ce une maladie encore tabou, selon toi, le burn-out?
Complètement, ouais. Complètement, ah ouais.
Donc, il y a vraiment encore le saut. Enfin, voilà, c'est quelque chose de caché, comme tu l'as dit tout à l'heure. Socialement, vraiment, là aussi, on a du mal à exprimer.
Ouais.
D'accord.
Ouais, alors, ici, et je pense qu'en particulier en Suisse, parce que quand tu as ton travail, tu as ton rythme, tu pars en vacances, tu as ta petite vie, tout va bien. Mais dès que tu es en dehors du système, tu es vite pointé du doigt. Et moi, je me suis rendu compte à quel point tu pouvais être mis en dehors du système, à quel point tu pouvais partir aux oubliettes et à quel point, en fait, c'était difficile de trouver quelqu'un qui pouvait être à ton écoute et qui comprenne ton problème par peut-être une expérience similaire. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est que je ne trouvais pas d'association à Genève. Et je suis allé j'ai fait d'autres types de thérapies. J'ai fait la zoothérapie avec les chevaux, ça m'a énormément aidé, très 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 bien. Je suis allé aussi à une association passer une journée qui est l'association Parole qui fait un excellent boulot. Mais je me rendais compte que j'étais un peu en décalage avec les gens qui étaient là parce qu'il y avait peut-être d'autres problématiques, d'autres pathologies. Et puis je me rendais compte qu'il n'y avait pas un endroit vraiment concrètement, à part No Burnout et la clinique du travail, où je pourrais me dire, bah, tiens, on va se poser sur une table, on va parler de son vécu et puis voir un peu quelles sont les solutions qu'on peut trouver en commun pour après sortir et aller de l'avant. Mais je n'ai rien trouvé de tout ça. Donc j'ai regardé sur Facebook, j'ai regardé sur Internet. Je me suis dit, mais là, il n'y a rien. Et puis après, d'où l'idée qui est venue de Burnout.
Et voilà. Ouais. Et alors voilà, justement, on y est. Tu crées ce groupe de travail. Okay. Effectivement, de dépit et de l'observation que tu fais et du manque, selon toi, en tout cas, de choses existantes pour accompagner les personnes dans cet état-là, tu crées ce groupe de rencontre, ce groupe de soutien, Burnout Door. Alors, il y a un peu un petit jeu de mots, Burnout et Outdoor.
Exact.
Tu voudrais nous l'expliquer?
Je me suis dit, comment je pourrais appeler le groupe de Parole? Et j'étais en train de cogiter, je me dis mais comment quel nom je pourrais donner? Et ça s'est passé pendant la nuit. Je me suis dit mais voilà, il y a le burn-out qui est une chose. Puis il y a ce côté où je m'imagine, en fait, à la maison, tu brûles, tu t'énerves tout seul et tout ça, et tu n'as personne avec qui partager. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est dire, je fais le pas, je passe le pas de ma porte et je décide de sortir, de m'ouvrir aux autres. Donc, burn out door, qui est la façon de dire, ben, si tu veux, si t'es vraiment, tu as besoin de t'exprimer, ne reste pas tout seul à la maison. C'est important de rester seul à un moment donné, de s'isoler, de prendre le temps de s'isoler pendant une bonne période pour bien aller chercher son soi intérieur. Mais une fois qu'on a passé cette période, c'est tout aussi important après de faire le pas et d'aller vers l'extérieur et d'aller chercher le contact. Même si la personne n'a pas vécu ça, avec une personne, deux personnes, de faire du sport, de s'ouvrir aux autres, c'est très important. Donc pour moi, ça avait une suite logique et puis ça s'est passé pendant une nuit. Ouais.
D'accord. Et alors depuis quand et qu'est-ce qu'on y trouve ?
À la base, moi, je voulais partir sur une page Facebook. Je raconte un peu mon histoire. Je mets des adresses et des contacts utiles. Pas mal de vidéos en rapport avec le burn-out au début. Et après, sur différents thèmes qu'on peut retrouver en rapport aussi avec le coaching et autres. Et puis, j'essaye chaque week-end, chaque deux week-ends ou une fois par mois de créer un petit groupe de parole. Dans l'idée de se retrouver et d'échanger sur plusieurs points, sur différentes expériences. Ça concerne les personnes qui vivent un burn-out ou qui en ont sorti ou qui pensent être en train de s'en rapprocher. Et l'idée, c'est ça, c'est de peut-être partager une petite partie de son expérience, toute son expérience, voilà, c'est libre. Il n'y a pas de temps ou de timing précis. Et puis, on est dans le partage et se dire, on s'écoute sans se juger et on essaie de trouver, ce qui est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a tendance vite à juger la personne dès qu'il est en train de parler ou à lui couper la parole. Donc, sans se juger. Et après, on va chercher des solutions en commun.
Donc, une forme d'apaisement et de mise en commun, comme tu viens de le dire.
Exactement, sans but thérapeutique. Ouais.
D'accord. Alors, les fréquences, de quelle manière les gens viennent, restent un long moment, pour une longue période, et il y a des fréquences régulières ou tout cela est assez informel et c'est un peu en work in progress d'une certaine manière.
Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai créé la page Facebook début janvier, le 3 janvier. Pour l'instant, il n'y a eu personne, en fait. J'ai aucun groupe de parole pour l'instant. J'ai eu des contacts de personnes par mail, avec des mails assez profonds, assez intenses. Je pense que ça aussi, ça fait du bien juste d'écrire à quelqu'un qui a vécu la même chose, voilà, sans forcément aller chercher après un groupe de parole. D'autres à qui j'ai proposé de les voir individuellement, mais je pense qu'ils n'étaient pas encore prêts parce que c'est peut-être plus facile d'être dans un groupe pour s'ouvrir que individuellement. Donc voilà, il y a des messages, des remerciements, des messages de soutien, des mails assez intenses. Pas de groupe de parole, mais je sais que c'est un processus qui va prendre du temps. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire la publicité sur Facebook, je vais investir un petit peu. Je pense que c'est important pour que les gens voient ça et que ça reste petit à petit dans imprimé dans le cerveau et dire, il y a un groupe de parole qui a été créé à Genève. Et puis, ça s'appelle Burnout Door. On peut se rencontrer, on peut essayer de trouver des solutions en commun. Donc, j'essaie de développer un petit peu ça, comme on peut développer tout type d'association. Là, on est en train de faire également un petit logo sympa que je pourrais montrer après à vous, qu'on est en train de mettre en place pour le groupe de parole, un site internet. Voilà, tout ça va se mettre en place petit à petit pendant l'année. Mais voilà, je suis content, je suis assez confiant. Je pense qu'il y aura des gens qui s'inscriront au groupe de parole. Peut-être que ça prendra un mois de plus, peut-être un an, deux ans, trois ans. Enfin, moi, je reste sur mon objectif et je continue sur mon objectif.
D'autant qu'on sait que c'est un parmi les mots du 21e siècle, le burn-out. Donc, on sait que quoi qu'il en soit, des personnes nichées ici, cachées là-bas, certainement qu'une fois que l'information leur surgira au devant de leurs existences et de leurs problèmes, elles vous rejoindraient. De quelle manière est-ce que les personnes peuvent justement te contacter ? Pour le moment, c'est page Facebook et une adresse mail.
Oui, exactement. Page Facebook, une adresse mail. Une fois qu'ils me contactent par mail, je réponds, j'envoie mon numéro de téléphone. Je leur dis, si vous voulez, on peut faire un premier entretien téléphonique. On peut se voir autour d'un café, on peut se balader, on peut aller à la SPA promener des chiens et puis en même temps être dans l'échange. Donc c'est vraiment ça, ouais. Par mail, burnoutdoor@gmail.com et une fois que je donne le mail, on échange par téléphone. Et je pense qu'une bonne façon aussi d'échanger et de communiquer, c'est à travers le mouvement, une petite balade en nature ou même dans un parc, au bastion, la grange, enfin n'importe, ça fait du bien. Et donc voilà, moi je suis ouvert à ça et avec grand plaisir, ben je reçois les personnes pour passer un bon moment d'échange et de communication. Ouais.
Encore, en tout cas, l'appel est lancé. Nous, ouais. Évidemment, on mettra ça au libellé du podcast de cette émission. Concernant, je voulais encore, on va arriver doucement au terme de l'entretien, mais je voulais qu'on parle quelques secondes de la notion de culpabilité. Mais avant cela, peut-être rappeler que c'est vraiment ouvert à toutes et à tous, comme on l'a dit en première partie d'entretien, ouvert à toutes et à tous, de tout âge, et que c'est, on l'a dit, le burn-out, quelque chose qui peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment.
Ouais.
Et qu'il ne faut pas hésiter, dès lors que voilà, notre premier cercle, que ce soit le cercle familial ou des amis, nous disent peut-être, remarquent certains symptômes de changement de comportement, comme tu l'as dit,
ouais.
De prendre sur soi. Et peut-être que justement, avant d'aller consulter et de faire ce passage obligé et difficile d'aller consulter, et bien prendre contact avec toi, ça
avec
peut
plaisir.
Être une très très bonne étape intermédiaire, d'autant plus qu'on y trouve notamment toi Diego qui a eu ce vécu là, ce ressenti là et ce parcours là,
ouais.
Et qui donc peut être de bons conseils pour les personnes,
ouais.
Alors dis-moi, la culpabilité, est-ce une notion qu'on voit systématiquement à chaque fois concernant le burn-out? Est-ce que ça accompagne le burn-out quasiment intimement?
Oui. Je pense que c'est quelque chose d'assez profond. On culpabilise parce qu'on pense qu'on n'a pas le droit d'être dans cet état-là. On n'a pas le droit de se sentir mal, on n'a pas le droit d'avoir un coup de mou, on n'a pas le droit d'être un jour un peu moins bien, un jour un peu mieux. Non, il faut être tout le temps au top et c'est ça le problème. Donc on culpabilise, on se dit c'est pas normal ce que j'ai, le problème il vient de moi. J'ai un souci, tatatitata, mais on le garde pour soi. Et plus on le garde pour soi, plus en fait on se ment à soi-même. Hein. C'est ça le problème.
Bah oui, c'est ça. Ouais.
Donc c'est ce problème de je ne suis plus honnête avec moi-même. Et donc comme je ne suis plus honnête avec moi-même, je m'ouvre de manière fausse aux gens. Et donc je pointe peut-être un problème qui n'est pas le problème qui est en rapport avec moi. Mais qui en fait en disant bah voilà la société elle est comme ci, tatati, tatata, les gens c'est tous des cons. Tatata. Et au final, on ne s'arrête pas et on ne se dit pas mais il y a quelque chose que je peux faire comme travail sur moi. Donc je pense qu'il y a un problème vis-à-vis de l'honnêteté avec soi-même parce que cette société nous fait tellement culpabiliser qu'en fait c'est ce qui fait qu'on s'éloigne de nous-mêmes et qu'on devient de moins en moins honnête avec soi-même.
Ouais, il y a beaucoup de façades, beaucoup d'apparences.
Énormément, oui.
Très bien, très bien. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir...
Merci à toi de m'avoir invité, ouais.
Y a-t-il peut-être des questions qui apparaissent ? Non, alors ça veut dire qu'on était relativement exhaustif pour cette fois. Ce que je te propose, Diego,
oui.
C'est qu'on se retrouve dans quelques mois peut-être pour faire un point.
Avec plaisir.
Sur où est-ce qu'on en est dans,
ouais.
Ton cheminement, dans les rencontres certainement que tu auras l'occasion de faire.
Oui, bah, écoute, avec plaisir.
Ben écoute, alors on y va comme ça. Donc on l'a bien dit, Burnout Door, donc c'est une association, un groupe de soutien, pardon, un groupe de parole et de soutien dédié,
ouais.
Aux personnes vivant ou ayant vécu un burnout.
Exactement.
Et créé par toi-même, Diego.
Oui.
Et donc, veux-tu le rappeler, comment est-ce qu'on te contacte ?
burnoutdoor@gmail.com, donc tout attaché en un mot, et sur la page Facebook, @burnoutdoor, directement. Et puis il y aura un site internet qui va être créé petit à petit. Il y a des choses qui vont se mettre en place en lien avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout pas à faire le premier pas, même si au début c'est individuellement. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut changer. Et puis même si on va peut-être pas trouver une solution, mais au moins le fait d'écouter, de partager, c'est ça le plus important.
Ouais.
Pour moi, Burnout Door, c'est revenir en fait sur des valeurs qui existait à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'est simplement la communication. Et plus caché derrière un écran, se dire, ben voilà, on revient sur quelque chose de net, d'intègre et de sincère, et se dit, ben, on va utiliser les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, pas pour critiquer ou pas pour pointer du doigt une situation ou un problème, mais pour se rencontrer. Et je pense que là, ça va être vraiment la clé.
Je te remercie beaucoup, Diego.
Merci à toi.
Et à la prochaine.
À la prochaine. Hein.
Merci.
Ciao,
voilà.
Ciao.